Bonjour à toutes et à tous. Bien, sans tarder, je vous propose de lire dans vos Bibles un texte que vous trouvez ici en anglais, mais rassurez-vous, je vais vous le lire en français. Les premiers versets du psaume 46. Au chef de chœur des descendants de Corée pour soprano, chant. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. Et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent, jusqu'à faire trembler les montagnes. Jusque-là, la lecture du psaume. Il émane de ces versets un sentiment de paix, de confiance, de sérénité, d'assurance, qui contraste fortement avec les tensions provoquées par notre actualité. Cette semaine a été rythmée par l'escalade des menaces que fait peser le président russe sur l'Ukraine entière, en menaçant même d'avoir recours à l'arme nucléaire. Les tirs d'artillerie à proximité immédiate d'une centrale nucléaire ont créé un sentiment de panique chez nos dirigeants dans la nuit de mercredi à jeudi. Comment rester serein dans de telles circonstances? Dans sa présidence, dimanche dernier, Nasser nous a rappelé qu'en Dieu, nous avons un abri sûr. Christian, dans sa méditation, nous a donné en exemple David, qui a su faire confiance à Dieu dans des circonstances de guerre civile et de lutte intrafamiliale. Le Seigneur m'a mis à cœur de poursuivre dans le même esprit et de chercher dans les Écritures des encouragements. Il y aura beaucoup de petites lectures dans la prédication de ce matin, parce que j'ai la conviction que la parole en elle-même se suffit, et qu'elle parle à nos cœurs. Première lecture. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Voilà un verset qui, de prime abord, nous rassure. Ne vous laissez pas troubler, car cela doit arriver. Tout ce qui arrive a été prévu par Dieu depuis longtemps. Alors que le monde est dans l'incertitude la plus totale sur son avenir, ce verset nous dit que Dieu est aux commandes, qu'il préside à la destinée du monde. Mais ce ne sera pas encore la fin. On se dit, ouf, c'est pas pour tout de suite. Puis à la réflexion, ce n'est pas la première fois que le monde connaît des tensions aussi extrêmes. La crise des missiles à Cuba en 1962, bon, j'étais né, mais je n'ai pas compris grand-chose de ce qui se passait à l'époque. En 1983, là j'ai compris, les missiles pointaient vers l'Europe de l'Ouest. Effectivement, bruit de guerre ne signifie pas automatiquement guerre. Mais invoquer ce verset n'est-il pas une façon de se rassurer à bon compte? La tentation est grande de sous-estimer le danger pour se rassurer. Il y a 2 semaines encore, tout le monde pensait que ça n'arriverait jamais. Pour la première fois de mon existence cette semaine, je me suis demandé si on n'allait pas au-devant, effectivement, d'une catastrophe, de ce qu'on appelle quelquefois la grande tribulation, au moins l'une de ces étapes. Les événements de la fin que rapporte le livre de l'Apocalypse se réaliseront peut-être lors d'un conflit nucléaire, quand on a toutes ces images du ciel qui s'assombrit, des étoiles qui se détruisent, etc. Ça évoque aujourd'hui la puissance nucléaire. Et si c'était vraiment la fin, comment réagirions-nous? Si les choses devaient empirer, si le monde devait se trouver entraîné dans une spirale de violence, le psalmiste, lui, affirme que même si c'est la fin du monde, nous n'avons pas à avoir peur. Face à une destruction générale, il exprime sa confiance dans l'intervention divine. Car Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Je citerai à plusieurs reprises le témoignage de deux pasteurs ukrainiens trouvés sur Évangile 21. Une première citation. Il n'y en a qu'un qui contrôle l'avancement de l'histoire, dit ce pasteur. Effectivement, l'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Mais ce pasteur ajoute, mais ce n'est pas toujours facile de s'en rappeler lorsque les bombes explosent. La suite de notre méditation s'articulera en deux parties. Je commencerai par évoquer l'exemple d'Habacuc, qui connut lui aussi une situation de guerre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai regardé, c'était en début 2016 où j'avais fait 3 prédications sur le livre d'Habacuc. J'ai vérifié, ils sont encore sur le site de l'Église, si vous voulez, vous pouvez les réécouter. Et dans une deuxième partie, ça fera un petit peu catalogue, ça fera un peu une énumération, mais de paroles qui sont encourageantes et des appels à la prière. Première partie, l'exemple d'Habacuc. Habacuc a vécu dans les années 600 avant Jésus-Christ, à une époque où la situation du royaume de Juda est grave. À l'intérieur du royaume règne l'idolâtrie, la violence, la corruption. Je cite, « On ne respecte plus la loi, les méchants empêchent les justes d'agir, les jugements qui sont rendus sont corrompus. » Fin de citation. À l'extérieur, les Chaldéens menacent d'envahir le royaume. Et Dieu dit à Habacuc, « Je vais faire venir les Chaldéens, peuple féroce et déchaîné qui parcourt les étendues de la terre pour prendre possession des demeures d'autrui. » Et quelques années plus tard, le peuple de Juda sera déporté et exilé à Babylone. Quel sentiment habite Habacuc ? Il a l'impression que Dieu l'abandonne, du moins qu'il ne réagit pas. Je cite, « Appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri ?» Un sentiment d'incompréhension. Il ne comprend pas que Dieu reste sans réaction devant le mal qui règne. Je cite, « Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices ? Peux-tu rester indifférent à tous nos tourments ?» Il s'impatiente. « Jusque à quand appellerai-je à l'aide ?» Il est indigné. « Je ne vois devant moi que rage et violence. On ne respecte plus la loi. » Quelles sont les questions qui lui traversent l'esprit ? Pourquoi le mal domine-t-il ? Pourquoi Dieu ne réagit-il pas ? Quand va-t-il intervenir? Quand tout cela va-t-il cesser? Interrogation, inquiétude, incompréhension, indignation sont des termes qui traduisent bien ce que nous pouvons ressentir aussi en ce moment. Quelle réponse reçoit-il de Dieu? Première réponse, Nous l'avons déjà lu. Je vais faire venir les Chaldéens, peuple féroce et déchaîné, qui parcourent les étendues de la terre pour prendre possession des demeures d'autrui. En résumé, demain sera pire qu'aujourd'hui. Deuxième réponse. J'interviendrai en mon temps. Je cite. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement. Il ne tardera pas. Troisième réponse. Fais-moi confiance. Vous connaissez bien ce verset qui est repris dans Romains. Le juste vivra grâce à sa foi. Or, Hébreux 11 nous rappelle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il ne faut donc pas nous arrêter à ce que nous voyons, mais à ce que nous croyons et à ce que nous dit l'Écriture. Le méchant sera jugé pour ses crimes et sa cruauté. Nous l'avons déjà lu. Dieu brise le faîte de la maison du méchant. Il la détruit de fond en comble. Comment Habacuc réagit-il à ces réponses qui ne sont pas celles qu'il espérait ? Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Si je reformule la pensée d'Habacuc, que ta volonté soit faite, comme nous disons dans le Notre Père, mais souviens-toi de notre faiblesse, aie pitié de nous, ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Plus loin, Habacuc poursuit. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Comment ne pas penser aux Ukrainiens quand on lit ces pensées, qui depuis des jours sont terrés et qui attendent. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Habacuc est bien conscient de la dure réalité qui va se produire. Mais il termine ainsi. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Mais on se dit, mais comment il fait ? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Le verset 17 liste toutes les circonstances auxquelles s'attend Habacuc. Tout viendra à manquer. Le verset 16 détaille les sentiments d'Habacuc. L'angoisse. Mes entrailles sont émues, mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent. Un sentiment d'impuissance. Je dois attendre le jour de la détresse. Mais il ne veut pas s'arrêter là. Je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Je citerai un deuxième témoignage d'un autre pasteur ukrainien. Comment l'Église devrait-elle réagir lorsque la menace de guerre ne cesse de croître, quand la société vit constamment dans la peur? Bien que l'Église ne se batte pas de la même manière que la nation, nous croyons toujours que nous avons un rôle à jouer dans cette lutte. Nous croyons que l'Église est un lieu de lutte spirituelle. Dès que les tensions sont apparues, notre Église a annoncé une semaine de jeûne et de prière. Nous nous sommes rassemblés tous les soirs pour apporter nos supplications à Dieu. Pendant 3 jours consécutifs, les lumières avaient été éteintes dans la ville. Nous avons été obligés de nous rencontrer dans l'obscurité, dans une atmosphère encore plus solennelle, quand nous prions pour la paix. À la fin de la semaine, ces moments avaient produit en nous une force intérieure pour persévérer. Grâce aux prières communautaires, nous avons davantage de confiance et de paix. Nous croyons que Dieu est avec nous, et c'est la chose la plus importante. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Et on pourra noter que c'est une semaine de prière persévérante qui a donné la force à ces gens de dire « Dieu est avec nous ». C'est le plus important. Quelques citations de l'Écriture pour nous encourager. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. C'est ce que disait ce pasteur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion, et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. J'ai été interpellé par le « afin que ». Si nous cédons à la panique générale, si nous réagissons comme le monde, comment les gens croiront-ils que nous avons une véritable espérance en Dieu? Il ne s'agit pas de dire crânement, même pas peur. Nous partageons les mêmes craintes que tout le monde. Nous ne serions pas honnêtes. Mais de rappeler que si nous partageons les mêmes craintes, nous avons une espérance. Et ce n'est pas la même chose de vivre l'épreuve avec un espoir que de le vivre sans autre perspective que d'attendre la mort. Nous croyons que Dieu veille et reste maître de toutes choses. Nous espérons en sa compassion et en son réconfort. C'est Dieu qui donne de la force à celui qui est fatigué, qui augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. N'est-ce pas ce dont témoignait ce pasteur ukrainien? Je relis ces paroles. À la fin de la semaine, ces moments avaient produit en nous une force intérieure pour persévérer. Grâce aux prières communautaires, nous avons davantage de confiance et de paix. Nous croyons que Dieu est avec nous et c'est la chose la plus importante. Une autre citation. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Dieu est fidèle. Ne laissons pas l'adversaire nous faire croire que Dieu a abandonné le monde. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Nous pouvons demander à Dieu sa paix. Nous pouvons demander à Dieu d'augmenter notre foi, qui est souvent bien défaillante. Je citerai à présent le témoignage d'un deuxième pasteur ukrainien. Nous avons improvisé une soirée de culte et de prière pour l'Ukraine. C'était un moment agréable. Je ne sais pas si vous remarquez. Plutôt surprenant, quand même. C'était un moment agréable, pendant lequel nous nous sommes encouragés les uns les autres, et nous avons chanté du plus profond de nos cœurs cette vérité. Comme il est dit dans un des chants que nous avons chanté, « Tu es fidèle, tu seras toujours fidèle. Tu es fidèle, toutes tes promesses sont oui et amen. » Et ce pasteur de continuer, « Nous servons un roi qui a regardé la mort en face et qui l'a vaincu. Il l'a fait exploser de l'intérieur. Il n'y a qu'un seul vrai roi. Et les petits tyrans du monde ne font simplement que le jeu de sa grande victoire. Ses promesses sont certaines. Sa victoire est inévitable. » Et moi je dis, merci Seigneur pour cet exemple de foi formulé sous les bombes. Une autre lecture. Dieu peut changer le bien en mal. C'est Joseph qui dit à ses frères dans le livre de la Genèse, vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Quand Joseph a été vendu par ses frères, ce n'est pas à ce moment-là, je pense, qu'il a compris ce que Dieu voulait faire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut comprendre non plus pourquoi Dieu fait les choses comme il les laisse faire. Mais Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. Même lorsque nous ne comprenons pas, faisons confiance à Dieu qui sait quel but il poursuit. C'est Paul qui adresse aussi cette recommandation et invite à la prière. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Je reviendrai très vite sur cet appel à la prière, j'en ferai ma conclusion en vous donnant quelques thèmes possibles. Je conclurai en relisant les deux passages qui m'ont le plus interpellé dans ce que je vous ai dit ce matin. Ce premier témoignage. Nous servons un roi qui a regardé la mort en face et qui l'a vaincu. Il l'a fait exploser de l'intérieur. Il n'y a qu'un seul vrai roi. Et les petits tyrans du monde ne font simplement que le jeu de sa grande victoire. Ses promesses sont certaines. Sa victoire est inévitable. Ou Habacuc, accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la, mais dans ta colère. Souviens-toi de tes compassions. Je vous proposerai pour terminer de prendre quelques instants, que ceux qui se sentent appelés à prier le fassent. J'ai relevé un appel à la prière aussi d'un des deux pasteurs que j'ai déjà cités. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive. Si vous avez à cœur d'autres thèmes, vous avez évidemment la liberté de le faire. Le premier thème, c'est « Prions Dieu d'accorder aux croyants » et j'ai envie de dire « Mais aussi à d'autres » parce que la grâce de Dieu, elle est universelle et qui sait qui sont vraiment les sauvés. Prions d'accorder à Dieu, aux croyants, pardon, premièrement, mais aux autres aussi, sa protection surnaturelle, et qu'il soit glorifié lorsque la fierté et les plans des hommes méchants seront réduits à néant. Prions pour les nombreuses personnes qui sont dans la crainte et la confusion, afin qu'ils puissent découvrir ces jours-ci le seul véritable espoir en Christ. Prions Dieu de leur donner la force et la sagesse de servir ceux qui en ont besoin de la meilleure manière qui soit, afin que l'Église brille au cours de ces événements. On sait bien que, malheureusement, c'est souvent dans la détresse que Dieu peut faire son œuvre dans le cœur de certains hommes. Et bien qu'au moins ces événements puissent servir à manifester la grandeur de Dieu. Prions Dieu de répondre aux différents besoins. Soyons généreux avec le peuple ukrainien dans la mesure du possible. Je vous invite à la prière. Seigneur, lorsque nous traversons des circonstances aussi graves, il est beaucoup plus facile de céder à la peur plutôt que d'être reconnaissant, Seigneur, pour ce que tu es déjà pour nous, pour tout ce que tu nous as donné et tout ce que tu veux nous donner encore. Et Seigneur, je veux te dire merci déjà de ne pas être orphelin dans ces circonstances, mais d'avoir un Père qui veille. Merci Seigneur d'être cet espoir pour ces gens qui sont dans des circonstances si difficiles et qui t'appellent à l'aide. Seigneur, nous savons que tu entends, nous savons que tu aimes, et nous ne savons pas quand, Seigneur, nous ne savons pas comment, mais nous voulons croire que ta bonne main va les protéger et que tu vas intervenir en ton temps pour mettre fin, Seigneur, à cette tyrannie. Amen.